Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La liturgie de ce jour nous invite à nous unir aux anges dans la louange et dans la jubilation. Nous invite à tourner nos regards vers notre Seigneur Jésus-Christ, à oublier un peu la terre, à oublier nos propres soucis et à regarder notre Seigneur Jésus-Christ glorieux au ciel, régnant, pour que nous-mêmes nous vivions au ciel. Ce mystère de l'ascension est très important dans l'économie de la rédemption, dans l'économie du salut. On le voit notamment par la prière du canon qui suit immédiatement la consécration, qui commence par les mots « Unde et Memores ». Dans cette prière, après donc avoir offert le sacrifice, l'Église nous fait faire mémoire, dit-elle, de la bienheureuse passion, de la résurrection et de la glorieuse ascension. Ça fait un tout. Les trois font un tout dans ce mystère de la rédemption. Alors, en quoi ? Eh bien, l'ascension, cet événement de l'ascension, ce mystère de l'ascension, achève la rédemption, complète, achève le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous les éléments d'un sacrifice, de tout sacrifice, aussi bien le vrai sacrifice qu'est le sacrifice de notre Seigneur, aussi bien les sacrifices figuratifs de l'Ancien Testament, aussi bien les vrais sacrifices des païens. Dans tout sacrifice, il y a d'abord la présentation anticipée de la victime, qui est l'offertoire, on l'a à la messe juste après le credo. Puis il y a l'occision de la victime. Dans la messe, c'est la deuxième consécration, la consécration du précieux sang qui sépare le sang du corps de notre Seigneur et qui réalise d'une façon sacramentelle, qui renouvelle de façon sacramentelle l'unique sacrifice de la croix. Puis, et c'est nécessaire, il y a la communion où les fidèles, d'abord le prêtre, puis ensuite les fidèles, communient à la victime pour être réconciliés avec Dieu. D'abord le prêtre, en effet, car le prêtre, communiant à la victime, cela signifie, le prêtre représentant Dieu, ça signifie que cette victime est passée dans le domaine de Dieu, si l'on peut dire, elle est passée dans la propriété de Dieu, elle a acquis comme une valeur divine, et ainsi, ensuite, les fidèles peuvent communier, et s'unissant à cette victime qui a quelque chose appartenant à Dieu, eux-mêmes sont sanctifiés. Voilà le mécanisme de tout sacrifice. Mais il faut que la victime soit agréée de Dieu. Alors, c'est symbolisé par la résurrection, c'est réalisé par la résurrection dans la passion, dans la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est d'abord présenté au temple par sa mère, par Notre-Dame, c'est l'offertoire. On pourrait peut-être dire aussi que l'agonie à Gethsémani est l'offertoire du sacrifice de la croix. Notre Seigneur, cette fois-ci, non plus par les mains de Notre-Dame, mais lui-même, comme grand prêtre, offre d'avance toute sa passion à son Père. Il dit à son Père, non pas ma volonté, mais la mienne. Il s'offre en victime. Puis vient l'occision, qui est la mort de Jésus sur la croix. Ensuite, l'agrément de la victime, parce qu'il faut bien que nous sachions et que ce soit clair que le sacrifice de notre Seigneur a été agréé par le Père. Cet agrément est signifié par la résurrection. Puisque notre Seigneur est ressuscité des morts, c'est bien que son sacrifice a été très agréable au Père. Et puis enfin, et c'est l'ascension, le passage de la victime dans le domaine divin. Alors, il est symbolisé dans la messe par la communion du prêtre, et ici, dans l'ascension, notre Seigneur lui-même, homme et Dieu, mais dans son humanité, monte au ciel, il rentre au ciel, il est ainsi vraiment la victime, après la résurrection, après son agrément, est passé dans le lieu de Dieu, qui est le ciel. C'est pourquoi notre Seigneur, la victime du sacrifice, monte au ciel dans son humanité. Et quand nous-mêmes, maintenant, nous communions à notre Seigneur Jésus-Christ, certes à sa divinité, mais également à son humanité, à son corps, à son sang, à son âme, nous-mêmes, nous sommes comme transportés au sein de la Sainte Trinité, puisque notre Seigneur y est. Maintenant, que fait notre Seigneur au ciel ? Il convient que notre Seigneur monte au ciel pour exercer pleinement son activité de grand prêtre. Notre Seigneur est non seulement victime, mais grand prêtre. Vous savez qu'un médiateur, un prêtre est essentiellement médiateur, un médiateur fait deux choses. D'une part, il présente à Dieu les prières du peuple, et d'autre part, il distribue au peuple les dons de Dieu. Ce qu'on appelle la médiation ascendante, la prière, et la médiation descendante, la distribution des dons divins. À la messe, le prêtre offre le sacrifice, prie, puis ensuite distribue les sacrements. Quant à sa médiation ascendante, notre Seigneur sur la croix, victime mais aussi grand prêtre, met à mort la victime, puisque c'est notre Seigneur qui a choisi le moment où il subirait sa passion. Il montre très bien au cours de sa passion comment il accomplit les Écritures. C'est lui-même qui a décidé le moment où il rendrait l'esprit. On le voit très bien d'après les études des médecins qui ont étudié de près les différents supplices de notre Seigneur et qui ont montré qu'un homme ordinaire serait déjà mort avec la flagellation, sans doute. Mais notre Seigneur a choisi le moment de sa mort, donc on peut dire qu'il est comme grand prêtre, il oxie la victime, il décide du moment où la victime est mise à mort. Puis, il reste à présenter ce sang, à présenter cette victime à Dieu. C'est aussi le rôle du prêtre. Et rappelons-nous ce que faisait précisément dans l'Ancien Testament le grand prêtre des Juifs qui faisait cela d'une façon figurative. Il pénétrait, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9e, il nous explique ces rites de l'Ancien Testament et comment il figurait le sacrifice de notre Seigneur. Le grand prêtre pénétrait seulement une fois par an dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans la partie la plus sainte, la plus réservée du temple, d'abord de la tente dans le désert, puis du temple de Jérusalem, qui était séparé du reste du sanctuaire par un voile. Et le grand prêtre pénétrait une seule fois par an pour présenter le sang du bouc le jour de l'expiation. On lit dans le Lévitique au chapitre 16e pour le jour de l'expiation, « Le grand prêtre immolera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et il en portera le sang de l'autre côté du rideau. » Puis ensuite, dans le Saint des Saints, ce grand prêtre aspergeait avec le sang du bouc le propitiatoire qui était au-dessus de l'Arche d'Alliance, qui était entouré de deux anges, et ce propitiatoire était comme le lieu de la présence de Dieu. Eh bien, notre Seigneur, dans son ascension, fait la même chose. Il monte au ciel, il passe derrière le voile, nous ne le voyons plus, il rentre dans le Saint des Saints, et il présente son sang à son Père. C'est donc la dernière partie du sacrifice, la dernière partie de son activité de grand prêtre dans le sacrifice. Et maintenant qu'il reste au ciel, il intercède, nous dit saint Paul, sans cesse auprès de son Père. Saint Paul dit encore, il paraît pour nous devant le visage de Dieu. Il parle pour nous au sein de la Sainte Trinité. Et comme dit saint Jean également, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est comme si, comme dans un procès, quelquefois le plaignant ou bien celui qui est attaqué n'est pas présent au procès, mais il est présent par son avocat. Puis, deuxième partie du sacerdoce, donc de la médiation, c'est la médiation descendante, distribuer au peuple les dons de Dieu. Et ça consiste pour notre Seigneur à envoyer le Saint-Esprit. Le sacrifice, alors pourquoi fallait-il attendre cette glorification de notre Seigneur, cette montée au ciel, pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, pardon. Notre Seigneur l'a dit aux apôtres dans le discours après la scène, il a dit « Si je ne m'en vais pas, vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. » Et pourquoi faut-il attendre? Eh bien d'abord, il faut que le sacrifice soit pleinement achevé pour qu'il puisse Un, pour que Dieu puisse envoyer les fruits, c'est-à-dire la grâce, aux hommes. Ensuite, il fallait qu'il soit clair que le Saint-Esprit vient de Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. C'est Dieu qui l'envoie, qui nous l'envoie. Donc il fallait qu'il apparaisse clairement que notre Seigneur Jésus-Christ, homme, était aussi Dieu. Saint Augustin écrit, « Il fallait que Jésus, dans cette forme d'esclave qu'il avait prise, fût remonté vers son Père, afin d'établir aux yeux des hommes son égalité avec lui, parce que pour que l'Esprit Saint pût descendre en nous. » Ainsi, il est clair, notre Seigneur n'est plus visible, il est remonté avec le Père et le Saint-Esprit, et le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit aux hommes. Et puis, d'autres motifs de convenance, il fallait ainsi, par la soustraction de la présence sensible de notre Seigneur, que les désirs des apôtres soient élevés. « Il vous est bon que je m'en aille, dit notre Seigneur. » La présence corporelle tangible de notre Seigneur aurait été un obstacle, comme un écran, pour faire comprendre cette action de notre Seigneur au ciel. Donc, notre Seigneur est monté au ciel, il prie pour nous sans cesse, et il nous envoie le Saint-Esprit qui est son esprit et par lequel il reste présent parmi nous. Il reste présent par l'action du Saint-Esprit, il reste présent, bien sûr, par le Saint-Sacrement. Il reste également présent par l'activité de la Sainte Église. Et cette nouvelle présence de notre Seigneur, présence sacramentelle dans le Saint-Sacrement, présence par son Esprit qui vient dans nos cœurs et qui est présent dans nos cœurs sans cesse, qui éclaire notre intelligence, qui fortifie notre volonté, qui nous fait pratiquer les bonnes œuvres. Cette présence aussi dans la Sainte Église, qui enseigne, qui donne les sacrements, qui gouverne. Cette présence est beaucoup plus noble, plus élevée qu'une présence physique, sensible, tangible. Beaucoup plus élevée. Donc beaucoup plus glorieuse pour Dieu, beaucoup plus avantageuse pour nous. Les fruits de cette fête, d'après la liturgie, c'est pour nous, c'est la joie et puis cette orientation vers le ciel. La joie. Il est remarquable que les apôtres, après le départ de notre Seigneur, aient été tout joyeux. Au contraire, nous les voyons dans l'anxiété, dans l'abattement, avant la passion, quand notre Seigneur leur apprend son départ. Ici, il le voit monter, les anges leur disent qu'il est maintenant au ciel, qu'il reviendra à la fin des temps, et les anges, nous dit l'Évangile, nous dit les actes des apôtres, sont tout joyeux, ils rentrent au Cénacle. Comment se fait-il? Eh bien, c'est que depuis la Passion, après la Résurrection, pendant ces 40 jours, ils ont vécu avec notre Seigneur, où il leur a expliqué beaucoup de choses. Après la grande épreuve et la grâce qui les a fortifiés, ils sont devenus de vrais amis de notre Seigneur. Leur amour est désintéressé. Et il doit en être de même pour nous. Comme pour l'Église, nos cœurs ne doivent battre que pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour sa gloire, pour son bonheur, pour la béatitude de son humanité au ciel, de sa gloire au ciel. Et ainsi, nous sommes invités à imiter les saints, les 24 vieillards du livre de l'Apocalypse, les anges de l'Apocalypse, qui ne cessent jour et nuit dans l'éternité de chanter « Saint, Saint, Saint le Seigneur ». C'est notre vocation ici-bas de ne pas rester sur la terre, mais de nous réjouir de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le père de Foucault écrit « Si nous l'aimons comme nous devons, le bonheur de l'être infini doit l'emporter infiniment dans nos âmes sur la tristesse provenant des maux des êtres finis. » Certes, nous éprouvons des tristesses ici-bas, mais la joie du bonheur de Dieu, la joie de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, doit de loin l'emporter si nous sommes vraiment ses amis. Et le deuxième fruit, c'est cette vie au ciel, cette conversation au ciel, comme dit saint Paul, et comme nous le dit aussi la collecte de ce jour. C'est-à-dire que notre âme, au lieu d'être tournée sans cesse sur nous-mêmes, égoïstement, au lieu d'être tournée sans cesse sur la vie matérielle, sur la vie du corps, sur les jouissances terrestres, que nous soyons tournés vers le ciel où se trouve notre vraie vie, où se trouve notre vie future, la vie éternelle déjà commencée. On dit que saint François regardait le ciel sans cesse, et il le regardait si assidûment, avec tant d'amour, que son corps lui-même était élevé. Bon, c'est arrivé pour beaucoup de saints. La lévitation, en priant, ils étaient élevés au-dessus du sol, quelquefois de plusieurs mètres. C'était un signe que leur âme était vraiment orientée vers Dieu. Et c'est la grâce de cette fête de l'Ascension, la grâce particulière que nous pouvons recevoir par la Sainte Communion de ce jour, par nos prières, et par les mains de Notre-Dame, qui elle-même, au ciel, avec son corps, vit avec notre Seigneur et avec son corps, se réjouit, non pas d'elle-même, mais se réjouit de la grandeur de son Fils, de la grandeur de l'Église, des biens infinis qui sont répandus sur ses enfants, et qui nous apprend à ne vivre que pour notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.